Bonjour, c'est Charles Montigny pour le KevGPT Podcast, le podcast où on parle d'intelligence artificielle appliquée que du concret. Cette semaine, on vous parle de comment, on vous parle de comment monter un chatbot pour votre site web, les 10 étapes pour vous monter votre propre chatbot chez vous à la maison. Pour ce faire, je suis avec le directeur des opérations de KevGPT, Alexandre Achev. Vous le connaissez peut-être comme quelqu'un qui poste des trucs un peu malaisants sur LinkedIn, mais vous avez appris à l'aimer sur cette plateforme. Bonjour Alexandre.
Bonjour Charles.
Alors, écoute, ça fait plaisir de t'avoir sur le pod cette semaine et comme peut-être que vous le savez ou vous ne le savez pas, chez CapGPT, on monte des chatbots. On en a monté plusieurs dans les derniers mois. On en a monté des custom même à l'automne. Donc, Alexandre fait partie de l'équipe de développement concrètement pour ces chatbots-là. Peut-être que tu peux nous parler un petit peu rapidement de ton expérience d'avoir monté quelques chatbots depuis peut-être les 6, 7, 8 derniers mois.
Donc, juste pour commencer vite, vite, je suis ingénieur civil de formation, travaillé plusieurs années dans le domaine de la construction. J'ai rejoint l'équipe cet automne avec Charles, où on a travaillé sur des projets plus custom pour des plus grosses compagnies. Donc, évidemment, c'était un peu plus de challenge pour développer les chatbots pour eux. Il y avait beaucoup plus de custom. Par contre, depuis ce janvier, le début de l'année, on a décidé de faire de quoi de plus rodé, plus facile à déployer. Justement, on a monté quelque chose justement qui est plus accessible pour la PME québécoise. Donc, c'était ça mes expériences. Le custom est maintenant ce qu'on offre en SaaS.
Exact. On a monté à peu près dans les derniers mois, plus streamliné en bon français, une quinzaine de chatbots pour des clients en plus de, je sais pas, peut-être une autre trentaine de prototypes. Donc, on a pas mal d'expérience dans le développement de chatbots. Et pour ce faire, cet épisode, en gros, ce que j'ai fait, c'est que de mon côté, un peu en secret, petit coquin, je me suis fait une liste des 10 étapes que j'avais en tête. Et je vais les présenter à Alexandre à froid. On va prendre son feedback, on va discuter. Et ça peut vous aider en fait à comprendre premièrement comment vous pouvez, vous, à la maison, vous monter votre propre chatbot dans les meilleurs, avec les meilleures pratiques. Et aussi à comprendre le processus là, si vous voulez faire affaire avec une firme externe pour monter le chatbot. Donc, sans plus attendre. Allons-y avec l'étape numéro 1, qui est, d'après moi, roulement de tambour, le choix de l'objectif du chatbot. Donc, nous, de notre côté, on avait ciblé trois sortes, là, trois types de chatbot qu'on pouvait monter. Il y a celui de support client, un peu disons, le plus classique probablement de service après-vente. Donc, quelqu'un est client chez toi et veut de l'aide après avoir acheté son produit. Sinon, celui d'expert interne, là, qu'on appelle. Donc, l'idée et derrière ça, c'est de mettre toute ta documentation de ton entreprise dans le chatbot, dans sa base de connaissances, et qui peut aider en fait à plusieurs trucs, là. Peut-être le onboarding des employés et potentiellement juste d'aider les employés à avoir accès à cette information-là. Et finalement, celui de capture de lead. Donc, celui-ci en fait vise à engager les prospects de ton entreprise, sur ton site web en fait, les gens qui viennent visiter par exemple ton site web, les engager dans une discussion et les amener à un call to action. Donc, c'est les trois types de chatbots qu'on a en tête pour qui peuvent aider les PME québécoises en ce moment. Et évidemment, avant de se lancer, avant de se dire, oh, on va faire un chatbot, ben choisis, tu sais, derrière ces trois types de chatbots-là, il y a des objectifs d'affaires qui sont complètement différentes. Dans le premier, je dirais que L'objectif, c'est de rendre tes employés plus productifs. Dans le deuxième, c'est de diminuer tes coûts face à ton support client. Et dans le troisième, c'est d'augmenter tes revenus, maximiser tes leads. Donc, bien évidemment, avant de se lancer dans un projet d'une envergure, ben, c'est pas un grand, c'est pas une si grosse envergure que ça, mais dans ce projet comme ça, c'est important de connaître ses objectifs. Es-tu d'accord avec moi, Alexandre? Oui, tu es d'accord.
100% d'accord.
Parfait. Je suis beaucoup dans le micromanagement pour que les gens soient d'accord avec moi. J'ai une idée et c'est bon, non, c'est une blague, mais ouais, écoute, je pense qu'il n'y a pas nécessairement de choses à discuter de ce côté-là. Peut-être un point à amener.
Ben souvent, quand on pense à l'objectif qu'on veut, des fois on pense qu'il va être, il va tout faire les objectifs, il va tout faire un peu, ou des fois on ne sait même pas exactement c'est quoi l'objectif. Donc ouais, je suis vraiment d'accord de bien segmenter l'objectif spécifique. C'est comme un employé. Donc, il faut vraiment savoir ça va être quoi son rôle spécifique. Tu veux pas un employé qui fait tous les rôles ou qui fait aucun rôle. Tu veux vraiment que ce soit bien segmenté. Donc, oui, je suis d'accord avec ce point-là.
Merci. Merci d'être d'accord. Maintenant, numéro 2, choisir la personnalité ou le ton du chatbot slash ses instructions de base, qui est probablement le premier layer de mes trois layers, là. Alexandre a dû l'entendre à peu près 50 millions de fois dans des rencontres avec des prospects et des clients quand j'explique les trois layers. Peut-être tu peux parler un peu de ce que nous on met, Alex, dans les instructions de base, dans le ton, la personnalité.
Donc, tout ce qui est personnalité du chatbot, ça serait vraiment de paramétrer un peu ça, c'est comment il va parler. Est-ce qu'il va être plus professionnel, plus amical, plus engageant, répondre directement, dirigé vers un humain? Donc, vraiment, c'est quoi comment tu veux que le client-facing side de la personnalité du chatbot, c'est quel type, dans le fond.
Est-ce qu'on veut des emojis ou on veut être on veut du vouvoiement, c'est aux deux extrêmes, disons là.
Exact.
De la même manière, il y a aussi des instructions là, tu sais, par exemple des instructions de base qu'on met souvent dans nos chatbots, c'est de pas parler des concurrents ou des trucs comme ça, là, d'avoir des chaque business a ses façons de travailler un petit peu différentes puis des trucs qu'il va vouloir. C'est ça qu'on vous conseille en fait quand vous réfléchissez à un chatbot. De comprendre ce premier niveau-là pour mettre des bonnes des bons barèmes, des bons guardrails par rapport à ça. Maintenant, je suis persuadé que tu connais le numéro 3. Si tu avais à guesser.
Si j'avais à guesser, ce serait le knowledge base.
La base de connaissances en bon français. Puis pour un.
Donc, la base de connaissances, c'est vraiment ce qui limite ce que le chatbot y sait. Donc, si vous vendez vous êtes par exemple un couvreur et vous faites des toits, donc tout ce que lui va savoir, c'est vos projets. Vos services, le temps que ça prend, toute l'information que vous avez dans le fond sur faire des toits. Donc, si je vais sur le chatbot, puis je commence à y parler combien ça coûte un toit, c'est quoi les délais pour refaire un toit, etc., il va pouvoir me répondre. Mais si j'ai dit c'est quoi la capitale de la France, ben là, c'est pas dans son knowledge
Paris.
base. Bravo, Charles. Charles a un plus gros knowledge base que les chatbots qui sont paramétrés. Donc, on restreint vraiment leur connaissance à quelque chose de spécifique pour pas qu'ils sortent du scope de justement ce qu'on a parlé avant, son rôle.
Effectivement, à la base, habituellement, on va prendre le site web du client. Donc, si vous commencez, ce qui peut être vraiment facile, c'est juste d'aller scraper en bon français votre site web. Habituellement, sur votre site web, vous avez déjà mis la majorité de l'information que vous voulez partager. Évidemment, on peut ajouter des documents, des PDF, des documents Word, autres. Et par contre, soyez certain que cette information-là peut être publique parce que veux pas, l'idée c'est que c'est un chatbot avec lequel le monde peut discuter. Donc, Évidemment que cette information-là, si vous voulez pas qu'elle sorte, ben, mettez-la pas sur votre chatbot, dans votre IA, de la même manière que vous la mettriez pas sur votre site web. Maintenant, d'autres conseils peut-être ou pro tips qu'on pourrait donner par rapport à la base de connaissances?
Si jamais, si jamais le chatbot, il faut qu'il réfère aussi vers un URL ou quelque chose, et ça peut être également mis dans sa base de connaissances, le URL directement pour rediriger vers quelque part. Donc, tout ce que le chatbot doit savoir. Ou si vous voulez le faire faire une action, mais il ne sait pas comment la faire parce que ce n'est pas dans sa base de connaissances, ça ne marchera pas. Donc, si tu lui dis réfère-les là dans ses instructions, par contre, sa knowledge base manque cette information-là, il y aura une contradiction. Donc, c'est vraiment important de bien nourrir cette base de connaissances.
Exact. Puis aussi, peut-être un pro tips numéro un ici, là. Le chatbot n'a pas pour objectif de remplacer tous vos blogs, tous vos trucs. T'sais, dans le fond, dans le meilleur des mondes, ça peut servir aussi de genre super moteur de recherche sur votre site web et de référer à certaines pages. Donc, à la place, vous pouvez ingurgiter évidemment tous vos cas d'études et vos blogs, mais de la même manière, il peut seulement, si quelqu'un pose une question par rapport à une question que vous avez déjà répondu à votre blog, vous pouvez demander au chatbot de donner une réponse très, très succincte, très courte, et avec le lien vers le blog complet. Donc, ça alimente aussi l'utilisation de votre site web et pas juste de tout régurgiter de cette manière-là. Maintenant, quatrième étape pour développer son chatbot IA, c'est les actions qu'il peut prendre. Donc, ce qui fait le tour de mes trois layers de mes chatbots IA. Donc, les actions qu'il peut prendre aujourd'hui, les chatbots grâce au LLM sont capables de prendre n'importe quelle action qui peut être faite à travers une route d'API. Donc, c'est l'idée ici que, par exemple, ChatGPT, les plugins qui ont été ajoutés l'année dernière, c'est vraiment dans cette ordre d'idée-là. Donc, on peut aller faire des recherches sur le web, aller faire des appels sur une base de données, créer un billet. Par exemple, dans le cas d'un support client, on pourrait aller créer un billet pour que des humains derrière viennent répondre à la clientèle. Donc, plein de toutes sortes d'actions comme ça. Par exemple, nous, de notre côté, chez CapGPT avec Capture, ben, évidemment, l'action principale, c'est d'aller capturer le lead dans un appel à l'action. Donc, ça peut être de prendre le courriel et le nom de la personne. Ça peut être d'aller proposer un courriel en échange d'un code d'étude ou d'une inscription à la newsletter. Mais c'est important sans cette partie-là, c'est un peu fade comme outil et ça limite ses capacités. Est-ce que j'oublie quelque chose par rapport au
call to
aux
action.
actions, hein, qu'il peut prendre?
Non, je pense que c'est parfait. Donc, encore une fois, dans la même lignée, faut que l'action soit reliée à son rôle. Donc, si son rôle, c'est d'être support client, ben, faut qu'il puisse répondre aux questions. Et si jamais il n'est pas capable de répondre aux questions, car c'est pas dans sa knowledge base, ben, là, il va référer à un humain ou booker un rendez-vous à travers un autre CRM, etc. Donc, l'action qu'il doit prendre est vraiment pertinente et nécessaire pour vraiment faire une expérience utilisateur agréable avec un chatbot.
Exact, exact. Par la suite, l'étape numéro 5, elle se veut de choisir le modèle d'IA qu'on va utiliser pour notre chatbot intelligent. Donc, depuis le début, là, on vous parle ici de pas de chatbot de type arbre de décision, là, évidemment. Là, je pense pas qu'aujourd'hui, personne n'est intéressé de développer ce type de solution-là. On parle vraiment de chatbots qui sont bâtis sur les grands modèles de langage, donc à la ChatGPT. Mais il en existe plusieurs autres. Donc, même en fait, au sein d'OpenAI, on peut aller pour un modèle plus petit. plus rapide, mais moins intelligent, comme GPT 3.5 Turbo. Son gros avantage, par exemple, dans ce cas-ci, c'est qu'il est 30 fois moins cher que OpenAI. Mais honnêtement, le coût que OpenAI, que GPT-4, excuse-moi, effectivement, les deux sont chez OpenAI. Donc, il est 30 fois moins cher que GPT-4, il est plus rapide, mais il va donner des fois des réponses un petit peu moins intéressantes. Donc, oui, la différence de coût est énorme, mais on joue plus dans les scènes qu'autre chose. Fait que on préfère, en fait, nous, de notre côté, utiliser des modèles plus intelligents, comme ceux de GPT-4, GPT-4 Turbo, en tout cas, les plus récents, évidemment, on les teste tous. On a des réponses différentes, on a des films un petit peu différents. Donc, c'est important de tester ces modèles-là. Évidemment, il y a d'autres fournisseurs que OpenAI. Il y a Google qui a sorti des modèles intéressants. Et plus récemment, il y a Claude 3 qui est sorti de chez Anthropic, un peu moins connu du grand public. C'est un peu moins un nom also name, là, comme on dit, Anthropic. Mais ils ont des modèles très, très bien. Et à tester parce que il modèle aussi rapide que GPT 3.5 au prix de GPT 3.5, mais qui tendent plus vers l'intelligence de GPT-4. Donc, c'est quelque chose que nous, on va tester et que, évidemment, on vous invite à tester aussi lorsque vous faites le développement de votre outil. Parce que c'est ça qui va venir, en fait, interagir de bien suivre les instructions, d'aller chercher l'information dans la base de connaissances, d'être capable de faire les actions au bon moment. C'est vraiment le modèle qui vient mettre tout ça, toute la colle autour de ça. On a fait des tests en plus, Alex, des fois, il me semble que même des modèles plus récents, des fois, ils performaient moins bien qu'avec le prompt spécifique. Donc, aussi, j'imagine jouer avec les prompts là, pour
Oui,
que
c'est
ça soit.
important de bien adapter, encore une fois, à quoi sert ce chatbot, donc son rôle, ses actions, ses instructions, avec le modèle de IA qu'on choisit. Donc, si il connaît très, très, très peu de choses et il fait très, très peu d'actions, c'est pas si pire d'aller avec un moins intelligent parce qu'il va pas pouvoir se perdre ou être confus. Il va vraiment être limité dans ses informations. Mais dès qu'on monte un peu, dans la complexité, c'est mieux d'aller avec un modèle, pas nécessairement le plus récent, parce que des fois les plus récents sont encore un peu en version bêta, mais un que ça fait assez longtemps qu'il est sorti, un bon modèle. Et juste pour revenir sur la question du coût qui est 30 fois plus élevé, ça peut quand même avoir un impact sur la façon qu'il répond. Et si jamais on n'a pas beaucoup de visiteurs sur le site web, donc ça vaut pas la peine de prendre le modèle moins cher, car le coût, la différence de coût est relativement faible. Mais si on a beaucoup de visiteurs sur le site web, encore une fois, prendre de meilleurs modèles va nous permettre de mieux interagir avec cette grande quantité de visiteurs. Donc, moi, je suis un fervent croyant que les modèles un peu plus avancés performent nettement mieux et il y a un ROI sur le coût un peu supplémentaire.
Mais ça, j'allais dire, parce que de toute manière, c'est que ce que ça te sauve en temps, justement, humain, à aller répondre aux gens derrière de c'est quoi cette réponse-là. Le ROI, il est clairement plus intéressant. C'est comme un peu se dire j'engage un développeur senior au lieu d'un développeur junior. Oui, il est plus cher, mais le ROI est là. Donc voilà, le choix du modèle, évidemment, à prendre en compte, mais on vous conseille d'aller pour des modèles de meilleure qualité. Maintenant, plus de étape numéro 6, plus du côté interface, il y a le développement du style du chatbot. Non, de notre côté, c'est évidemment, on veut qu'il y ait. Ben, à la base, il y a plusieurs façons de le mettre sur le site web. Il y a le côté un peu plus. Full page ou embed dans une page, un peu comme centré au milieu, ou le côté. Ou le côté. Pop-up, un peu le widget qu'on voit en bas à droite avec les messages pop-up sur le côté. Donc. Il va avoir évidemment les couleurs qu'on veut utiliser, le font, les logos et tout. Quelque chose d'assez classique à ce niveau-là. Donc, ça serait l'étape ici numéro 6. de développer le style du chatbot. Une fois qu'on a tout ça, on sait à peu près où est-ce qu'on s'en va avec ça, mais évidemment, il faut choisir en fait comment on le fait. T'sais, dans le passé, on a fait des projets custom, donc on part de zéro et on va le programmer de zéro. Quand on part de zéro, habituellement, on programme de zéro. Ce qui est évidemment beaucoup plus coûteux qu'une solution un peu plus clé en main. À l'autre extrême du spectre, il y a des solutions comme AI Coaches ou BotPress qui nous permettent de créer des chatbots un peu par nous-mêmes avec des interfaces et tout. Donc, ça peut nous permettre de faire toutes les étapes qu'on vous a mentionnées précédemment. Et nous, mettons, chez Capgpt, on se positionne au centre dans le sens que on a créé une méthodologie qui nous permet de générer des chatbots très rapidement à coût vraiment réduit par rapport à du custom, mais c'est une solution totalement clé en main par rapport à le faire vous-même, soit custom ou même avec des outils low code, no code, des trucs comme ça. Quelque chose à rajouter, monsieur
Non, c'est
Ratcha?
très clair à date. Une
On
fois qu'on
suit.
sait pourquoi on veut le chatbot, qu'est-ce qu'il sait, qu'est-ce qu'il fait, il est basé sur quel modèle, à quoi il a de l'air, la prochaine étape, c'est de le faire justement. Et comme on peut le faire tout nous-mêmes ou rien nous-mêmes, dès le début, pas dès le début, en SaaS, pas en SaaS, c'est plusieurs options. Donc vraiment.
Comment
Voir qu'est-ce qui
c'est...
fit le mieux, c'est quoi le budget, c'est quoi l'infrastructure.
Exact.
C'est très.
Comme plein de choses, là, mais dans ce cas-ci, il y a des solutions qui sont disponibles pour vous. Une fois qu'on a le chatbot, ben, pour ne pas se faire prendre un peu les culottes à terre comme certains, là, entre autres Air Canada dernièrement, il y a eu aussi un concessionnaire Chevrolet qui s'est fait prendre avec des réponses des gens qui truquaient. Le petit chatbot. Il faut évidemment faire une batterie de test. On dit souvent la fameuse batterie de test Capgpt parce que c'est pas quelque chose qu'on a vu beaucoup ailleurs, honnêtement. Et chez nous, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on a développé une méthodologie pour tester automatiquement jusqu'à une centaine de questions sur les chatbots. On va leur poser des questions dans la base de connaissances. Donc, l'idée, c'est d'aller voir s'ils sont capables de répondre aux questions qu'ils devraient être capables de répondre. On va leur poser des questions hors base de connaissances, donc des trucs un peu aléatoires. C'est quelle est la taille de la Lune, juste pour s'assurer qu'il ne répond pas et que les gens ne peuvent pas l'utiliser comme un chat GPT gratuit. On va poser des questions de type attaque, de prompt injection, donc pour essayer de voir si on est capable de le truquer. Donc, on s'est fait, ma foi, attaquer pas mal notre propre chatbot
Notre
depuis.
propre CapGPT chatbot a été souvent attaqué, le pauvre.
Souvent attaqué, on s'en vante pas beaucoup parce qu'on veut qu'il arrête, s'il vous plaît, même si ça n'a pas encore marché. Donc, c'est ça. Il y a aussi des questions juste de type qu'on appelle attaque commerciale, là, qui sont un peu des questions genre pourquoi ton prix est aussi élevé, pourquoi c'est cher, qui sont tes compétiteurs. Juste des trucs qu'on voudrait pas que le chatbot réponde mal. Et finalement,
Tout ce
je
qui est
pense.
inapproprié,
Oui, c'est ça.
qu'on veut vraiment, si quelqu'un l'insulte ou dit quelque chose d'inapproprié, on veut vraiment que ça retourne à un ton neutre et que ça répète pas pour pas qu'il y ait de risque que ça fasse un scandale ou quoi que ce soit. Donc, si quelqu'un il dit quelque chose qui est jugé inapproprié, il y a vraiment, faut que le chatbot ait un comportement spécifique qui est de rester neutre à ça.
Exact. Donc, de notre côté, on va faire une batterie de tests, à peu près une centaine de tests qu'on
De
envoie,
questions.
de questions, ce que nous, qu'on envoie à nos clients, qui peuvent aussi, que nous, on fait une revue dessus, on envoie aux clients pour la revue également. Ce qui fait que on teste le chatbot avant de le mettre public, qui est assez logique. Dans le développement logiciel, on a toujours fait ça, de faire des tests. Donc, il faut continuer à l'ère de l'intelligence artificielle. Après ça, étape numéro 9, qui est une étape assez simple, qui est, dans notre cas, là, qui est l'intégration sur le site web. Donc, une fois qu'on a décidé que c'était quoi, qu'est-ce qu'on voulait faire avec le chatbot, comment on l'a nourri de sa base de connaissances, on a mis des actions, on l'a développé, on l'a testé, ben, c'est le temps de le mettre sur le site web. Donc, dans certains cas, ça peut être relativement simple. Par exemple, si vous êtes sur un WordPress, de notre côté, chez Capgemini, on est capable de le faire à peu près en 34 secondes le déploiement. La majorité des plateformes CMS aussi. Donc, dépendant de votre fournisseur, de comment vous l'avez bâti, ça peut être un petit peu différent. Mais dans certains cas, ça peut être relativement simple. Quelque chose à
Non, c'est
ajouter?
ça,
C'est très simple.
c'est très simple.
Mais c'est important parce que si vous ne le déployez jamais, si vous mettez jamais sur votre site web, ça ne servira pas à
C'est
grand-chose.
ça, c'est ça.
Et finalement, la dernière étape, qui est une étape de surveillance, de monitoring en bon français, qui est l'idée en fait qu'une fois que ton chatbot est live sur ton site web, bien, tu peux continuer à suivre en fait les interactions que les gens ont pour t'assurer que tu n'as pas oublié quelque chose. Donc, bien, premièrement, ça peut être sans voir, même en le testant bien et tout, il y a peut-être des gens qui ont posé des questions qui sont différentes de ce que tu anticipais. Donc, la base de connaissances peut être mise à jour de ce côté-là. Tu peux voir aussi, ben, juste en général, c'est quoi les questions que les gens posent, c'est quoi les sujets qui sont posés. Et aussi, t'assurer ben, ce qui est utilisé, de quelle page viennent les interactions, des trucs comme ça. Et que tu peux faire évidemment, que tu peux faire toi-même. De notre côté, chez Capgpt, c'est quelque chose que on fait évidemment tous les jours avec les chatbots de nos clients. Et quand je dis on, je parlais bien évidemment de Alex, moi je fais pas ça, mais qui s'occupe des opérations.
C'est sûr que c'est en opération, mais un suivi peut-être pas quotidien nécessairement. Chez Capgpt, on le fait quotidien, mais dépendamment de la quantité de visiteurs et d'utilisation du chatbot, un suivi périodique pour s'assurer que tout se comporte comme prévu, qu'il répond les bonnes choses, que par exemple, vous avez changé un service dans votre site web, vous avez oublié de le changer dans sa base de connaissances. Vous vendiez service X, mais là, vous ne faites plus le service X, ou le service X maintenant est plus cher, ou plus compliqué, ou plus long. Puis vous avez oublié de faire ça, ben, c'est important de faire quand même un suivi et de bien updater, que ce soit sa base de connaissances, les instructions, les call to action, par exemple. Si jamais, juste s'assurer qu'il se comporte bien et de updater toutes les étapes qu'on a dit à date.
Exact. Donc, c'était les 10 étapes pour développer ton chatbot intelligent. Donc, si on les renomme rapidement pour faire un petit wrap-up, choisir l'objectif, choisir ses instructions, son ton, développer sa base de connaissances, y ajouter des actions, choisir le modèle d'IA, le style du chatbot, développer l'interface pour l'utilisateur. Une fois qu'on a l'interface, faire une batterie de tests. Une fois qu'on a testé, on peut le mettre en production, on peut le mettre sur notre site web et bien évidemment faire le suivi par la suite pour s'assurer que tout roule comme on veut. Donc voilà, c'était un petit épisode sur comment développer son chatbot. Évidemment, vous le savez, chez Capgpt, on développe des chatbots de capture de lead. Donc si vous voulez qu'on s'occupe de ces 10 étapes-là pour vous, faites-nous planifier un petit appel avec nous et ça nous fera plaisir de regarder ça avec vous, comment on peut vous aider. Donc, c'était Charles de Montigny avec
Alexandre Rachev.
Yes, et on s'en parle bientôt. Ciao,
Merci.
bye bye.